Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonjour, bienvenue dans le service politique, le balado des reporters politiques de BFM TV. Je m'appelle Philippe Corbet, j'ai présenté, je crois, 150 épisodes de ce podcast comme chef du service politique, mais je ne suis plus chef du service politique depuis quelques jours à BFM TV. Ce podcast est aussi l'occasion de passer la main à certains des reporters politiques de BFM TV que vous avez eu l'habitude d'entendre dans ces épisodes précédents. Donc, il y a avec moi ici à la rédaction Thomas Soulier, le chef adjoint du service politique. Salut Thomas.
Monsieur le directeur, bonjour.
Tu n'as plus le droit de me tutoyer.
Non, 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 bonjour, on se voit maintenant.
Anthony Lebeau, salut Anthony.
Bonsoir monsieur le directeur. Il y aura plus de frites à la cantine.
Ils vont me charrier. On a en direct du Sénat Perrine Vaz. Salut Perrine.
Salut Philippe, moi je continue à tutoyer.
Elle
n'a aucun respect Perrine.
Et Léopold, salut Léopold.
Bonsoir monsieur le grand directeur.
Des retraites, où on est potentiellement à moins d'une semaine de l'adoption de ce texte de réforme des retraites, à la veille d'une nouvelle journée de manifestation. En ce moment, puisque nous sommes le vendredi 10 mars à 16h07, Perrine, les sénateurs débattent du texte sur la réforme des retraites. Ils ont adopté cette semaine l'article 7 sur le passage de l'âge légal à 64 ans et ils doivent terminer l'examen du texte d'ici dimanche soir, donc dans deux jours. Où en est-on? Est-ce qu'il y aura un vote sur ce texte d'ici dimanche soir?
Eh bien, c'est toujours la grande question, même si le gouvernement a activé ce matin l'arme ultime, le 49-3 sénatorial, disent les sénateurs de gauche ici, qui est l'article 44-3 de la Constitution, qui en fait impose qu'il n'y ait plus qu'un seul vote à l'issue des débats. Il n'y aura plus de vote sur chaque amendement, plus de vote sur chaque article, plus d'explication de vote, ce qui prenait beaucoup de temps, plus la possibilité pour l'opposition de sous-amender, ce qui prenait beaucoup de temps. Et donc, du coup, le gouvernement a choisi les amendements qu'il souhaite garder. Tout ce qui est voté est voté. Et maintenant, on en est à la défense des amendements, tout de même, parce qu'il y en reste un millier. Et ça a été une discussion ce midi dans tous les trois groupes de gauche. Des sénateurs de gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête les débats ici? Ou est-ce qu'on continue à siéger et qu'on défend quand même mordicus nos amendements, même si on sait qu'il n'y aura pas de vote? Ils ont fait le choix de revenir, de siéger. Et là, depuis 14h30 maintenant, on voit une séance beaucoup plus calme où chaque sénateur de gauche défend ses amendements. Ils ont deux minutes chacun pour le faire. Ça compte un peu pour du beurre parce qu'il n'y aura plus de vote à l'issue. Mais il y en reste quand même 1000 à défendre. Donc 1000 à défendre, mathématiquement, ça nous porte presque au-delà de dimanche soir. Donc qu'est-ce qu'il y aura un vote? Est-ce que cet article suffira pour accélérer les débats? C'est toute la question. Même les conseillers ministériels qu'on peut croiser ici, pour l'instant, ils n'ont pas la réponse.
Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de vote dimanche, il n'y aura pas eu de vote sur la réforme des retraites, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Ça serait quand même assez étonnant et je crois inédit.
Oui, c'est d'ailleurs ce que voulaient les sénateurs de gauche. Mais en fait, c'est plus compliqué pour eux ici parce qu'en fait, ils sont vraiment en minorité, contrairement à l'Assemblée nationale. Ici, la majorité sénatoriale, sans aucun suspense, souhaite l'adoption de la réforme des retraites. Donc les sénateurs de gauche, qui sont très minoritaires, avaient contre eux les sénateurs de la majorité, qui veulent bien sûr le texte de leur gouvernement, et les sénateurs de droite, qui sont très favorables à ça. D'ailleurs, Bruno Retailleau, tout à l'heure, était très satisfait de l'article 44-3. Mais malgré cet article-là, eh bien, on ne sait pas si ça va aller assez vite, parce qu'il reste quand même un millier d'amendements pour voter, et c'est ce que cherchent les sénateurs de gauche, et c'est pour ça qu'ils veulent continuer le combat, nous disent-ils, c'est notre devoir, et surtout, pour faire en sorte, encore aujourd'hui, d'avoir l'objectif de ne pas arriver à voter, pour qu'aucune des deux chambres n'ait voté ce texte.
Et il faut préciser une chose, c'est que ça serait une première sous la Ve République s'il n'y avait pas de vote à l'Assemblée ou au Sénat sur un texte, avant que ça arrive mercredi en commission mixte paritaire, mais on va y revenir. Avant cela, Anthony, toi tu suis la gauche pour BFM TV. Est-ce que c'est une victoire, une défaite pour la gauche, cette situation au Sénat?
Il y a deux possibilités. S'il n'y a pas de vote, évidemment, au Sénat de cette réforme des retraites, ce sera une victoire pour la gauche parce qu'il n'y aura pas de légitimité parlementaire de ce texte. C'est ce que disent les sénateurs au Sénat. Ils disent, grosso modo, si l'Assemblée nationale ne vote pas, si le Sénat ne vote pas sur ce texte de la réforme des retraites, la légitimité de la réforme est remise en cause. Donc tout cela, évidemment, c'est pour essayer de booster, de donner du carburant à la mobilisation sociale dans la rue parce que beaucoup disent, en gros, c'est pas de notre, on ne va pas réussir nous seuls parlementaires pour essayer de faire retirer cette réforme. C'est surtout dans la rue que ça va se jouer. Après, s'il y a un vote effectivement de la réforme des retraites au Sénat, ce sera clairement une défaite. Et une défaite dont certains craignent que ça puisse ralentir la mobilisation sociale. Et est-ce que des parlementaires qui sont responsables, les Républicains, diront post-vote au Parlement, si le Parlement valide, est-ce qu'il faut appeler encore à la mobilisation sociale dans la rue puisque le Parlement a voté ?
Toi, Léopold, parce qu'il y a aussi, au même moment, le président de la République vient de parler tout à l'heure. Il recevait le Premier ministre britannique à l'Élysée. Il a une question de Mathieu Coache du service politique de BFM TV. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit exactement?
Alors, la question était meilleure que la réponse, tu peux me permettre, en toute objectivité.
On va encore se faire enguirlander par l'Élysée.
Non, Mathieu était clair. Il disait, est-ce que vous excluez, oui ou non, en 49-3 à l'issue, donc en passage en force? Et le président, il dit, en gros, je laisse ça entre les mains du Parlement. Il dit, il faut que ça aille à son terme, mais il ne se mouille pas tant que ça.
Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a eu la réponse de l'Élysée par une lettre à la lettre qu'avaient adressé les syndicats. Les syndicats, donc, avaient adressé, tous les 8 syndicats de l'intersyndicale avaient adressé un courrier au président de la République sur un ton assez sévère. Je résume ce courrier avec un mot qu'avaient utilisé les syndicats dans cette lettre. La situation est explosive, disaient les syndicats, en raison de ce qu'ils décrivaient comme un refus du gouvernement, refus de l'exécutif d'entendre ce qui se passe dans la rue. Et donc, ils demandaient à être reçus par le président de la République. Léopold, toi, tu suis Matignon et le gouvernement pour BFM TV. Le président de la République a répondu qu'il ne souhaitait pas les recevoir, mais rappelait que le gouvernement, et l'Élysée nous l'a dit à plusieurs reprises cette semaine, le gouvernement est prêt à recevoir les syndicats comme il l'a fait ces derniers mois en recevant Olivier Dussopt, Elisabeth Borne, ont reçu les syndicats. Comment est-ce que tu sens l'état d'esprit côté gouvernement, côté Matignon, toi Léopold? Est-ce que Elisabeth Borne pourrait les recevoir?
Elisabeth Borne a toujours expliqué qu'elle pouvait recevoir les syndicats à tout moment, que la porte du gouvernement était ouverte, mais on va dire qu'elle renvoie plus la balle du côté de son ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est, on va dire, au charbon en ce moment, qui est en permanence sur les bancs de l'Assemblée avant et du Sénat maintenant. Donc, on va dire que dans la séquence actuelle, ils sont très attentifs à ce qui se passe au Sénat. Elle suit en permanence, on me raconte que elle dialogue en permanence avec un duo, c'est Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, et Olivier Dussopt, son ministre du Travail. Ils communiquent à distance. Encore ce matin, par exemple, ils ont longuement échangé sur la façon dont les débats avançaient au Sénat. Mais on va dire qu'ils ont aussi leur regard sur ce qui va se passer après. Il y a cette fameuse commission mixte paritaire, cette réunion de 7 sénateurs et 7 députés se retrouver mercredi, pour essayer de trouver un compromis sur le texte qui va ensuite revenir à l'Assemblée, qui va être lu pour être ou non voté.
Et Léopold, je m'arrête juste sur la CMP, pardon, la commission mixte paritaire. On est d'accord que le plus probable, c'est qu'il y ait un accord entre la droite et l'exécutif, la majorité, mercredi, lors de cette réunion-là. C'est le plus probable.
Oui, absolument, c'est le plus probable. Et que ce texte-là est évidemment une grosse couleur de droite. Puisque on rappelle que le texte qui arrive en commission mixte paritaire, c'est normalement le texte du Sénat s'il est voté. Puis au-delà de ça, tous les articles qui seront votés au Sénat vont arriver directement en commission, puisque à l'Assemblée, il n'y a pas eu de texte.
C'est ça. Donc c'est simple, mercredi. Jeudi matin, c'est au Sénat.
Exactement.
Et ça va être voté, ça n'y a pas de doute. En revanche, le suspense est beaucoup plus grand pour l'après-midi pour l'Assemblée. Donc là, il y a deux choix. Ou alors ils vont au vote parce qu'ils voient que ça peut passer, ou alors ils font 49-3. Philippe parlait du 49-3 et d'Emmanuel Macron. Comment Elisabeth Borne, elle voit ce 49-3? On a l'impression, peut-être qu'une impression, tu vas nous dire, qu'elle est un peu plus réservée sur le 49-3 que le président, non?
Je vais te donner deux citations qu'elle a répétées en permanence dans différents médias. Alors elle dit « Je souhaite que cette loi soit votée, que chacun puisse prendre ses responsabilités. Nous avons eu des discussions y compris avec les groupes d'opposition, pour s'assurer qu'un maximum de députés votent cette réforme. Puis une autre citation, je souhaite vraiment qu'il y ait un débat et que chacun puisse en responsabilité voter cette loi. Bon, donc en gros c'est une sorte de volonté, mais c'est pas une affirmation non plus. C'est, elle veut que ce texte soit voté. Après, elle nous dit pas clairement il n'y aura pas de 49-3. C'est je vais tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Disons que il y a aucune phrase moi que je peux relever aujourd'hui dans tout le suivi qu'on fait où elle dit on va l'utiliser ou on va pas l'utiliser. C'est on va tout faire pour que il ne soit pas utilisé. C'est vraiment les éléments de langage qui reviennent tout le temps.
Mais elle a envie aussi par ces déclarations-là de pousser aussi les LR, les Républicains dans leur retranchement, parce que à chaque fois les députés de la majorité présidentielle, le gouvernement rappelle que les LR pendant la campagne présidentielle avaient défendu la réforme des retraites et le passage de l'âge légal à 65 ans et que maintenant c'est 64 ans et qu'ils voient pas pourquoi il y aurait un problème à ce que les LR ne la voteraient pas. Donc c'est aussi peut-être un moyen de pousser les Républicains dans leur retranchement. C'est vrai qu'au Sénat, la majorité sénatoriale est composée du centre et surtout des Républicains de la droite. À l'Assemblée, ils sont quoi, 61. Ils sont pas tous assurés de la voter. Voilà, cette réforme, je crois, peut-être 35, 40. Ouais.
Il faudrait, selon les calculs, Perrine, dis-nous si on se trompe ou pas, toi qui suis le Parlement, il faudrait, c'est ça, 40 députés LR, sur les 61 dont on parlait Anthony, ouais, qui votent pour que ça passe, c'est ça?
Oui.
Et est-ce qu'on y est?
Bah écoute, en tout cas, moi, dans une discussion que j'ai pu avoir les jours derniers, on n'y était pas, parce qu'on parlait plutôt de 25 députés aujourd'hui qui seraient prêts à voter contre ou s'abstenir. Et même des députés LR me disaient ça, alors qu'eux-mêmes sont favorables à la réforme. D'ailleurs, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, on a le Sénat qui avance coûte que coûte avec la majorité sénatoriale de droite. C'est la question que je posais à Bruno Retailleau. Et puis, à l'Assemblée nationale, ça peut être les voix de droite qui manquent. Alors, tout à l'heure, un conseiller, enfin le cabinet de Franck Riester, qui est le ministre en charge des relations avec le Parlement, me disait que de toute façon, traditionnellement, les Républicains, Franck Riester les connaît bien ayant siégé à leur côté pendant de nombreuses années.
Ils viennent de la droite, oui.
Traditionnellement, annoncent toujours leur vote ou décident toujours de leur vote au tout dernier moment. Donc, effectivement, du côté du gouvernement, très officiellement, on ne veut pas envisager le 49-3, bien évidemment pas y recourir, mais c'est un peu le jeu aussi de dire ça aujourd'hui. Le chemin au Parlement n'est pas terminé, le processus parlementaire est encore en cours, et effectivement, si aujourd'hui on annonçait ou il y avait des rumeurs qui disent que le gouvernement passerait par un 49-3, ils ne peuvent pas le dire aujourd'hui, puisque toutes les discussions continuent encore au Parlement tout de même.
Mais surtout qu'Emmanuel Macron, je le rappelle, est traumatisé par le 49-3, parce que lorsqu'il était ministre de François Hollande, il avait porté une loi Macron.
Ouais.
Lui, il pensait à l'époque que ça passait. Donc, il avait dit à Manuel Valls, qui était Premier ministre, à François Hollande, allons-y, allons au vote, ça va passer. Sauf qu'à l'époque, Manuel Valls avait dit, non mais ça passe pas. On va pas se faire avoir. Donc, on fait le 49-3. Donc, c'est la même situation, en fait, aujourd'hui. Et on verra qui pousse à quoi. Alors, je refais la chronologie. On le refait ensemble. Dimanche, le vote au Sénat. Mercredi, la commission mixte paritaire. Jeudi, un éventuel 49-3. On verra. À l'Assemblée. Et la suite, c'est quoi? C'est les motions de censure. Et là, on a travaillé sur une information tous ensemble. Donc, on va vous la donner en exclu pour le podcast avant de la donner à l'antenne.
Quelle classe, quand même. Quelle classe.
Vous savez, il y a toujours des motions de censure quand il y a un vote. En général, la NUPES, toi, Anthony, tu les suis, dépose la leur. Et sauf que les LR ne la votent pas, etc. Donc, ça ne passe pas.
Ouais.
Le RN aussi dépose sa motion. Personne ne la vote, ça ne passe pas. Là, il y aurait en coulisses, eh bien, l'étude d'une motion de censure transpartisane avec quelques LR à s'y remonter, le groupe Territoire, le Lyot, et peut-être quelques députés de gauche, Anthony.
Oui.
Et ils arriveraient à 58, c'est le seuil qu'il faut attendre pour c'est déposer ça. Une motion de censure. Et là, tout le monde pourrait la voter, et donc le gouvernement, pour la première fois, tomberait. Oui. Ça serait une première. Est-ce que la gauche est prête à aider LR sur ça?
Il y a deux styles de réponse. La première, c'est de dire LR est un parti républicain, on peut très bien co-signer, voter une motion de censure pour faire tomber le gouvernement si on n'est pas d'accord avec la réforme des retraites. Et puis une deuxième réponse, beaucoup plus nuancée quand même, où on appuie un peu sur le frein, c'est de dire attention, les motions de censure, c'est quand même un texte où il y a du contenu, il ne faudrait pas qu'on puisse non plus mettre notre nom sur n'importe quel contenu pour en quelque sorte approuver des marqueurs, des républicains, etc. Moi, c'est ce que me disait une députée écologiste. Attention au contenu, mais c'est tout à fait possible si jamais cette motion de censure, elle est large, c'est-à-dire elle exprime un ressenti, un mécontentement sur le projet.
Comment il écrit,
ça dépend de son écriture et de sa rédaction. Après, il n'y aura pas de doute qu'il n'y aura pas d'élu insoumis qui co-signera.
Il a l'air en voudrant pas non plus.
Par contre, il pourrait aussi la voter. Oui. Ça, c'est ce que me disaient les insoumis à l'époque des premières motions de censure au début de la législature. S'il y a motion de censure déposée par les LR, on peut très bien la voter, parce que là, il y aurait le RN qui la voterait, il y aurait aussi la NUPES, et ça poserait pas de problème, parce que le porteur est important, le porteur de la motion de censure définit aussi qui la votera.
Et Léopold, surtout que Emmanuel Macron a toujours dit dans les dîners, qu'il y a eu à l'Élysée récemment avec la majorité, avec Elisabeth Borne, etc., qu'en cas de motion de censure adoptée, il y aurait une dissolution. Donc là, on s'approche petit à petit, peut-être, d'une éventuelle dissolution, non ?
C'est-à-dire que oui, c'est toujours le coup près, c'est un package, quoi. C'est OK, il y a une motion de censure, OK, ça tombe, mais derrière, vous tombez tous aussi. Et on sait que ceux qui visent particulièrement à travers cette déclaration, c'est les LR, c'est les Républicains, qui sont plus que 61 à l'Assemblée nationale, comme on disait, qui pour certains se sont battus pour avoir leur siège, donc ils jouent un peu sur ce ressort psychologique de dire « Est-ce que vous êtes tous prêts, vraiment, maintenant, à retourner aux urnes et à prendre le risque de vous faire tous, tous avoir, finalement, et perdre votre poste, finalement ?»
Surtout les Républicains
qui... Les Républicains, t'as raison, parce qu'on entend beaucoup que majoritairement, les Républicains n'ont pas du tout envie de retourner en campagne législative, et puis c'est quand même prendre un risque, cette motion de censure, si elle est exactement transpartisane, comme tu le décris, elle sera... honnêtement, on ne prend pas beaucoup de risques pour le dire, qu'elle pourrait être très largement votée. D'ailleurs, depuis le début de cette législature, tous les groupes attendent que LR clairement dépose une motion de censure pour pouvoir la voter. Mais ce qu'on entend aussi beaucoup dans les travées de l'Assemblée nationale, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une dissolution, pour beaucoup de députés, le vainqueur, c'est le Rassemblement national, qui pourrait revenir à l'Assemblée nationale avec encore plus que 89 députés. Il y en a même qui parlent de 150 députés. C'est tout à fait une projection au doigt mouillé, mais en tout cas, c'est la crainte de beaucoup de députés.
Donc, non, mais elle est réaliste.
C'est pour ça qu'effectivement, c'est intéressant à observer, cette démarche, en effet, mais elle peut avoir beaucoup de conséquences. Et peut-être qu'il y a des députés qui auront ça en tête et qui ça les empêchera de soit sauter le pas, soit de voter. Je ne sais pas, à voir.
Eh bien, on va suivre cela. J'ai un autre scoop. C'est le dernier podcast de Philippe Corbet.
Ah bah enfin.
Mais c'est pas le dernier podcast sur les retraites, je pense. On va en faire plein la semaine prochaine.
Je les écouterai.
En fin de semaine.
Mais tu reviendras en guest, non?
Non, j'écouterai ça attentivement.
Il va pas nous juger. Celui qui fera le meilleur podcast aura une augmentation à la fin de l'année. Je vous préviens, parce que désormais, c'est lui qui
a les cordons de la bourse. Moi, je veux juste plus de frites à la cantine, Philippe. C'est tout.
Merci à tous et à très vite.
À
très vite.
Merci à tous.
Merci de votre fidélité à ce podcast. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux malgré l'absence de Philippe Corbet parce qu'il a un fan club assez impressionnant. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode du Service Politique.